Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Édouard Barre et au Collège de France de me donner l'opportunité de cette conférence. Alors, j'ai eu le privilège de travailler avec Emmanuel Leroy-Ladurie il y a une vingtaine d'années, à une époque de ma carrière où j'effectuais une transition entre la géologie et le temps plus court de la climatologie historique. J'avais beaucoup à apprendre et j'ai effectivement beaucoup appris à son contact. Puisque Emmanuel Leroy-Ladurie était quelqu'un de très généreux de son temps et de son savoir en particulier. Il était toujours disponible pour aider les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Il m'a une fois confié qu'il avait un regret qui était de ne pas avoir créé une école. En fait, on le comprend à la lumière de ce qu'a exposé Emmanuel Garnier. Il a eu des difficultés à s'imposer comme historien de la climatologie. Mais je pense que finalement, les climatologues actuels, en tout cas ceux qui travaillent sur les périodes récentes, sont un peu tous ses héritiers et en ce sens, il avait tort, il a fait école. Travailler sur les données paléoclimatologiques, c'est important puisqu'on reconstitue les variations naturelles du climat, ce qui permet ensuite d'évaluer, de comparer des situations d'un climat qui est sous influence naturelle avec un climat qui est sous influence également anthropique. Dans le meilleur des cas, on peut arriver jusqu'à la quantification des forçages naturels du climat, des forçages climatiques naturels, du climat. Tout ceci contribue à améliorer les modèles climatiques, et ça nous ouvre aussi une fenêtre sur l'impact du climat sur les écosystèmes et les sociétés anciennes. Alors, ça a déjà été présenté largement aujourd'hui. Mais les données paléoclimatiques, on peut les classer dans deux catégories, des données documentaires qui ont différents supports, des rapports, des journaux personnels, des illustrations, et qui portent différents types d'informations économiques, sociales, religieuses, ou des informations météorologiques, ou des informations phénologiques dans lesquelles je classe les dates de vendange, même si elles ne sont pas purement phénologiques, puisqu'il y a une intervention humaine dans la décision de la date. Donc, j'en parlerai un petit peu dans mon exposé des dates de vendange. Et puis, il y a la deuxième grande catégorie d'informations paléoclimatologiques, ce sont les mesures physico-chimiques, c'est les mesures qui sont réalisées dans différents types d'archives. Et pour ma part, je vous parlerai des cernes d'arbres dans lesquelles je développerai un peu le sujet, j'irai un peu plus en profondeur, jusque même dans le travail pratique que nous faisons en laboratoire. Alors, je commence donc mon exposé par un petit détour par les dates de vendange, qui a été mon objet de recherche commun avec Emmanuel Leroy-Ladurie, mais aussi avec plusieurs des orateurs d'aujourd'hui, Emmanuel Garnier, Iñaki Garcia de Cortázar, Pascal You, qui nous étions tous rassemblés dans le fameux programme projet de recherche Ophélie, qui nous a permis plutôt des interactions qui ont été très fructueuses. Alors, la vigne, c'est une plante pérenne, méditerranéenne, qui a besoin de chaleur pour son développement. Alors, je ne sais pas comment ça marche, ce truc. Voilà, ça va. Donc, qui a besoin de chaleur pour son développement, et en particulier pour passer du stade de véraison au stade de maturité du raisin. Et le temps qui sépare ces deux stades, je pense qu'Iñaki va en parler largement, est une fonction de la température. Le banc des vendanges c'est la levée du banc des vendanges, correspond à la période de maturité du raisin. Et il était déterminé depuis l'époque médiévale par des experts de différentes natures. Mais il y avait vraiment une recherche de la bonne maturité. On attendait que le raisin soit suffisamment mûr pour faire la récolte, mais on n'attendait pas trop non plus pour ne pas risquer des différents aléas climatiques. Alors, comme le banc des vendanges n'est pas déterminé de façon aléatoire, la date de la vendange a un lien avec la température de la période de maturation. C'est ce qui est représenté dans ce diagramme. Il s'agit ici de la région de Bourgogne, où on voit que, alors, quand les dates de vendange sont tardives, là, c'est des dates qui sont mesurées après, c'est le nombre de jours après le 1er août, eh bien, quand les vendanges sont tardives, ça correspond à des températures qui étaient plutôt basses pendant la période de maturation, et inversement, quand les vendanges sont hâtives, donc elles se produisent peu de temps après le 1er août, eh bien, ça signifie que la température était élevée. Donc, on a des corrélations ainsi entre date de vendange et température. Dans le cadre du programme Ophélie, nous avons réalisé une grosse base de données en utilisant notamment des documents qui ont déjà été cités. C'est la compilation qui avait été faite au XIXe siècle par Angot. Et nous avons ainsi rassemblé 378 séries qui ont été regroupées par région, dans 27 régions. C'est une base de données qui est unique au monde. J'ai représenté ici les séries moyennes régionales. Alors on voit qu'elles sont d'extension variable, qu'elles possèdent des trous. Enfin, ce n'est pas des séries parfaites, bien entendu. Comme l'a montré Emmanuel Garnier, les dates de vendange, elles ne sont pas que phénologiques, puisqu'il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir dans la détermination, comme les guerres ou le goût du consommateur. Toutefois, quand on compare les séries de ces 27 régions, on se rend compte qu'il y a des schémas de variation qui sont communs. Par exemple, un de mes repères, quand je travaillais sur ce sujet, était ce qui se produit vers les années 1850. On a ce petit W que l'on retrouve partout, dans tous les vignobles français. Mais toutes les lignes aussi que j'ai déposées, que j'ai placées ici, en bleu pour indiquer des périodes des étés, enfin des périodes de développement froides, et en rouge pour des périodes de développement chaudes, eh bien on les retrouve dans beaucoup de vignobles à l'échelle nationale. Donc ça signifie que même si c'est une donnée anthropisée, et c'est un reproche qui lui a été souvent fait, même si c'est une donnée anthropisée, le fait qu'on ait un schéma, qu'on ait des caractères qui soient communs dans toute la France, signifie bien que c'est une donnée climatique que l'on a enregistrée, parce que la seule chose qui soit commune à tous les vignobles, c'est bien le climat. Alors, après quelques, comme disait un de mes professeurs, quelques sauvageries mathématiques, on a constitué une série synthétique pour la France, qui est celle-ci. Alors là, c'est une échelle, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est les variations relatives que l'on observe. On peut y voir notamment, et je ne vais pas détailler toute la courbe, hein, ce qui a été fait dans le cadre de plusieurs articles, mais on peut y voir notamment différentes petites cuvettes, par exemple celle-ci, qui correspond donc à des températures plus basses dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et qui est corroborée par l'avancée des glaciers alpins, ou encore cette cuvette moins prononcée, mais qui se situe autour de l'année 1675 et qui est contemporaine du minimum de Maunder, ou encore, si on s'intéresse à des valeurs extrêmes, l'année 1816, qui a déjà été citée, l'année sans été, et qui est effectivement une année qui est très bien enregistrée au niveau des dates de vendange. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu sur les dates de vendange, parce que je sais que ça va être développé dans d'autres exposés. Pour ma part, j'ai surtout travaillé sur les cernes des arbres. Et là, je vais rentrer plus dans le détail. Alors, dans les régions tempérées jusqu'au domaine subarctique, les arbres fabriquent chaque année un cerne de croissance. Et en fonction des conditions environnementales, c'est-à-dire le sol, le voisinage, leur état sanitaire, le climat de l'année, ils vont, si les conditions sont bonnes pour l'arbre, ils vont avoir une bonne croissance, donc faire des cernes larges, et puis si les conditions sont moins bonnes, qu'elles sont voire difficiles, les cernes vont être beaucoup plus étroits. Les dendrochronologues analysent mesurent ces largeurs de cerne, elles les transcrivent sous forme de graphes, et ces schémas de croissance sont la base de la discipline. Alors, pour un arbre donné, évidemment, le sol ne change pas d'une année sur l'autre. Son voisinage, par contre, peut changer s'il y a une éclaircie, son état sanitaire aussi, et le climat peut changer. Mais donc, pour un arbre donné, il y a plusieurs variables possibles qui entraînent des variations de croissance. D'où le fait qu'en dendrochronologie, on travaille jamais sur un individu, mais sur un grand nombre d'individus. Parce que ce qui est commun à tous les arbres d'un massif, eh bien, c'est le climat. Et donc, les dendrochronologues réalisent différents schémas de croissance, comme celui-ci. Il va y avoir une phase de standardisation sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et ils établissent une moyenne pour la région, qu'on appelle aussi une série maîtresse. Cette série maîtresse, elle peut être constituée à partir d'arbres vivants, mais on peut aussi réaliser des séries à partir de données, à partir de bois qui ont été extraits de monuments, voire à partir de bois qui viennent du domaine sédimentaire, qui sont des bois subfossiles. Et quand on a des périodes de recouvrement suffisantes entre les différentes catégories, on peut les combiner pour réaliser des longues séries. À ma connaissance, la plus longue série qui existe, c'est une série d'Europe centrale qui fait quand même 12 640 ans en continu avec une résolution annuelle. Donc c'est vraiment des séries qui ont un potentiel vraiment intéressant pour faire de la climatologie. Donc on est capable de faire des chronologies relativement longues avec une résolution annuelle, ce qui est très rare dans le domaine sédimentaire ou géologique en général, et avec un avantage aussi très important, c'est la datation qui est en général très compliquée à obtenir sur les autres archives. Alors il y a des mais. Les arbres, comme à peu près tous les êtres vivants, poussent plus vite quand ils sont jeunes que quand ils sont vieux. De ce fait, il y a dans les séries dendrochronologiques, il y a des tendances qui sont non climatiques. Et donc, quand notre objectif, c'est de reconstituer le climat, on veut s'affranchir de ces tendances, les supprimer. Les méthodes qui sont employées pour supprimer ces tendances, qui sont de plus en plus performantes, néanmoins, ne nous assurent pas que quand on enlève la tendance, on n'enlève pas aussi une petite part de climat. Donc ça, c'est une limite de la dendrochronologie basée sur les largeurs de cerne, qu'on appelle aussi dendrochronologie conventionnelle. Autre souci, c'est que pour que les arbres enregistrent de façon marquée le climat, donc qui nous donnent des schémas de croissance contrastés qu'on va pouvoir analyser, il faut qu'ils soient dans des conditions relativement stressées. Et de tels arbres, ce sont les arbres qui vivent aux hautes latitudes ou qui vivent à la limite des arbres en altitude. De ce fait, et aussi parce que historiquement, les chercheurs qui ont développé ces chronologies étaient plutôt des chercheurs de l'hémisphère nord, on a une répartition qui est très hétérogène des données dendrochronologiques. Ici, là, ce sont toutes les séries qui sont versées dans la base de données ITRDB, dans laquelle les dendrochronologues, assez volontiers, vont déposer leurs séries. Alors, on voit qu'il n'y a pas un enregistrement qui est très satisfaisant pour certaines régions. Et je reviendrai tout à l'heure sur le cas particulier de l'Hexagone. Avec ces mets, on a cherché donc des alternatives. Et une de celles-ci, c'est d'analyser la composition isotopique de la cellulose des cernes qui constituent le bois. Alors, je vais faire un petit rappel didactique. Comment se fabrique la cellulose ? L'eau pénètre dans l'arbre par les racines, je ne vous apprends rien, et c'est l'évaporation qui se produit à la surface des feuilles qui est le moteur de l'ascension de la sève. L'évaporation, elle se fait par des petites ouvertures qui s'appellent les stomates, qui sont sous la surface des feuilles, et ce sont aussi les portes d'entrée du CO2 atmosphérique. Une version très simplifiée de la photosynthèse, c'est l'association d'eau donc de cette eau qui vient du sol, du CO2 qui vient de l'atmosphère, pour donner des sucres, c'est 6H12O6, et émettre de l'oxygène. Donc les sucres, ce sont ces molécules cycliques, représentées ici. Les sucres qui sont donc formés dans la feuille sont ensuite transportés par la sève descendante, et à certains moments, ils vont se polymériser, c'est-à-dire que ces différents cycles vont s'associer les uns aux autres pour former la cellulose. Donc la cellulose, c'est juste un polymère de sucre. Sa composition, c'est 6H10O5N fois. Donc il y a du carbone, il y a de l'oxygène, de l'hydrogène, mais ce qui nous intéresse, enfin les isotopes sur lesquels on travaille le plus, c'est ceux du carbone et de l'oxygène. Et aujourd'hui, je vais parler exclusivement même de ceux de l'oxygène. Alors l'oxygène, il existe sous plusieurs formes, avec des masses atomiques différentes. Il y en a plusieurs des stables, dont l'oxygène 18 qui est très peu abondant et l'oxygène 16. Et nous, on analyse le rapport isotopique de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16. Ce rapport, il est normalisé à une référence et la façon dont on écrit ce paramètre, c'est delta 18O. Et ce paramètre, comme il y a une différence qui intervient dedans, il peut avoir des valeurs négatives ou positives. Alors voyons ce qui se passe maintenant du point de vue de ce paramètre isotopique. Et on repart du début avec les précipitations. Alors les précipitations, elles se forment par évaporation au niveau de l'océan. Puis il va y avoir des phases. L'humidité, elle est transportée par les masses d'air de la zone océanique vers l'intérieur des continents. Et il y a des phases successives de condensation qui vont donner des précipitations. Comme lors de la précipitation, c'est l'oxygène 18 qui va être préférentiellement aller dans la phase condensée, on a progressivement, au cours de ces phases de distillation, on a un appauvrissement de la vapeur d'eau. Donc du delta 18O, vous voyez qu'il part de ces valeurs plus hautes et qui va progressivement vers des valeurs de plus en plus basses dans la vapeur d'eau, mais ce qui nous intéresse, dans la précipitation également. On retrouve donc cet effet, on le voit, cet effet de distillation, on le voit quand on analyse, quand on regarde la composition isotopique des précipitations à l'échelle de la France, eh bien on a ce gradient, alors là il est représenté sur une autre échelle de couleur, mais on voit, on part des valeurs les plus hautes vers les valeurs les plus basses, on retrouve le gradient isotopique, en gros, d'ouest en est et aussi en allant en altitude. Comme la condensation successives, les phases de condensation successives de la vapeur d'eau, elles se font à des températures de plus en plus basses. Il y a un lien entre la composition isotopique de la précipitation, représentée ici, et la température. Alors là, je l'ai montré à une échelle large qui est mondiale. On voit qu'il y a une relation forte entre la composition isotopique des précipitations et les températures moyennes. Ben, ceci est vrai dans les latitudes tempérées à polaires. Donc nous, ce qu'il nous faut retenir, c'est que le delta 18O de l'eau, il porte une information sur la température. Revenons à notre arbre. Donc ces précipitations, elles s'infiltrent. Elles vont être prélevées par les racines et sans modification de la composition, l'eau va monter dans un tissu qui s'appelle le xylème. Et les sucres vont être fabriqués dans les feuilles. Alors la composition isotopique des sucres, elle dépend de celle de l'eau qui leur donne naissance et d'autres paramètres, des paramètres qu'on appelle des fractionnements isotopiques qui dépendent en partie de la température également, et de ce rapport ici, qui est le rapport de la pression de vapeur à l'extérieur et à l'intérieur de la feuille. En gros, c'est une mesure de l'humidité de l'air. Donc, si je récapitule, le delta 18O des sucres, il va dépendre de la température, toujours de la température, et de l'humidité de l'air. Il y a encore une phase. Nos sucres sont transportés par la sève descendante depuis les feuilles jusqu'au tronc. Vous voyez, il y a la polymérisation en cellulose. Et pendant la phase de polymérisation, on passe par des composés intermédiaires qui sont tels qu'on peut avoir des échanges entre ces composés et l'eau ascendante. En fait, il y a 42% d'échanges. Enfin, 42% de l'eau de l'oxygène, pardon. L'oxygène qui vient de la cellulose, qui est dans la cellulose, qui vient de l'eau. Donc c'est comme un rappel de la composition de départ. Donc au total, on avait notre sucre, la composition de notre sucre qui dépendait de la température et de l'humidité de l'air. On rajoute encore une fois l'eau qui dépend de la température. Donc au total, on a le delta 18O de la cellulose, qui entre autres choses, hein, ce n'est pas les seules choses, mais dépend de la température et de l'humidité de l'air. Donc j'espère vous avoir convaincu par ce petit ensemble de schémas qu'on a de bonnes raisons d'aller chercher des informations climatiques dans le delta 18O de la cellulose. Alors pratiquement, comment procède-t-on ? La dendrochronologie isotopique, c'est un travail de Romain. On commence par des prélèvements, soit dans les arbres, par carottage, dans les monuments. On récupère même parfois, comme ça a été le cas dans la NR Quasimodo qui a été citée, on a récupéré des bois calcinés de la cathédrale Notre-Dame, dont on a pu analyser la partie non calcinée. Et puis à la fin, on a des carottes de bois qui vont être découpées avec une patience et une méticulosité infinie, cerne par cerne. Ces cernes vont être broyées individuellement et on va obtenir une poudre de bois. Chaque échantillon de poudre de bois va être ensuite soumis à un traitement chimique, une alternance d'extraction par des acides et des bases. Et à la fin, donc ça va nous permettre d'éliminer les autres composés du bois, qui sont la lignine, les hémicelluloses. Et à la fin, on va récupérer de la cellulose. Cette cellulose va être homogénéisée, lyophilisée, et on va pouvoir procéder à l'analyse isotopique de l'oxygène, de la composition isotopique de l'oxygène, par spectrométrie de masse de rapport isotopique. Et enfin, on arrivera au traitement des données. Alors, on a vu qu'il y avait de la variabilité dans les schémas de croissance des arbres, mais il y a aussi une petite variabilité isotopique. Donc, on ne peut pas se permettre d'analyser un seul arbre quand on prétend reconstituer le climat d'une région. Là, c'est un exemple que nous avons réalisé en forêt de Fontainebleau. Là, on a analysé 15 chênes, la composition isotopique de 15 chênes, pour vous montrer le type de variation que l'on obtient. Et ce qu'on retient comme signal final, c'est ici la série en rouge, qui est la série moyenne. Dans la littérature, il y a un espèce de consensus qui est qu'en dessous de 5 individus pour constituer un signal, c'est pas très robuste. Nous, on irait même jusqu'à dire qu'à partir de 10 individus, ça commence à devenir bien. Alors, pratiquement, comment on fait ? Une fois qu'on a analysé sur la période récente notre delta 18O, donc notre variable mesurée sur la période instrumentale, on va chercher s'il existe des relations avec des variables climatiques. On va déduire de ça des modèles de régression, donc des équations, des incertitudes. Et sur la période pré-instrumentale, donc là où on ne connaît pas les variations de notre variable climatique, où on a déterminé le delta 18O, on va appliquer le modèle de régression pour reconstituer la variation de la variable climatique au cours du temps. L'exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est celui des variations climatiques dans le bassin parisien depuis l'an 1000 ou presque. Alors pourquoi le bassin parisien ? Voici un focus sur la fameuse base de données l'ITRDB que je vous ai présentée tout à l'heure. Et quand on regarde sur l'Europe de l'Ouest, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites dans le bassin parisien et en France en général. En fait, les données, elles sont essentiellement acquises dans les montagnes, mais pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, hein, quand il s'agit d'endrochronologie conventionnelle, on a des bons résultats, surtout quand on est à la limite des arbres, c'est-à-dire dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées. En fait, on a très peu d'informations sur ce qui se passe dans le reste de la France. Et là, c'est un focus sur l'époque médiévale, où là, carrément, on voit qu'il y a des reconstitutions qui ont été faites énormément basées sur les largeurs de cernes, mais qui ont été faites pour les hautes latitudes, jusqu'à pas très haute, en l'Angleterre aussi, et puis sur la région méditerranéenne, mais sur le bassin parisien, on n'a rien du tout. Donc en fait, ce qu'on connaît du climat, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu biaisé par le fait que les archives, elles ne couvrent pas de façon homogène tout le territoire. D'où pour nous l'intérêt et la motivation de travailler sur le bassin de Paris. L'espèce que nous avons choisi d'étudier, c'est le chêne, parce que c'est une espèce qui est largement répandue. Ici, c'est l'aire de répartition du chêne sessile. Le fait qu'il soit largement répandu, c'est un intérêt. Ça veut dire que ce qu'on va obtenir, nous, si on travaille sur le bassin parisien, on va pouvoir peut-être comparer à des résultats très similaires obtenus sur d'autres chênes en Europe. Et puis, l'autre intérêt primordial, c'est que c'est une essence qui est utilisée dans la construction, dans les bâtiments anciens, et donc qui nous permet d'établir ces longues chronologies dont je vous parlais, où on commence par des arbres vivants et on poursuit par des arbres de monuments. Les sites qui nous ont servi à établir cette chronologie, les voici. Je les ai replacés dans le gradient isotopique des précipitations pour montrer qu'ils sont dans une zone assez homogène d'un point de vue isotopique, donc au moins le paramètre d'entrée qui est l'eau a une composition qui est à peu près la même, en tout cas à l'époque actuelle, dans toute cette région. Et notre corpus, je vais le détailler un petit peu. Alors pour les bois les plus anciens, ce sont ceux de Notre-Dame. On a pu disposer d'un certain nombre de bois de Notre-Dame et c'est la thèse de Diane Dubois-Guéneux qui sera soutenue demain au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Diane a donc associé différents bois. Elle a réussi à séparer les bois qui étaient, enfin les périodes qui étaient trop carbonisées, les bois endommagés, pour construire toute cette série. Mais alors, ce que vous pouvez constater, c'est que d'abord, si on s'en tient aux échantillons qu'on a pu obtenir de Notre-Dame, on ne couvre qu'un peu plus d'un siècle. Et puis, on a par endroit, on a une faible représentativité, puisqu'on n'a que 5 bois pour constituer notre signal. Donc, ce qui est vraiment le minimum minimorum. D'où l'idée de poursuivre, d'étendre la série en allant chercher des données dans d'autres endroits. On a pris donc des bois de l'abbaye de Bonport et de l'abbaye de Preuilly et des bois de la cathédrale de Reims. Et voici tous les bois utilisés. Et en les associant tous les uns avec les autres, on couvre une période, cette fois-ci, qui fait 200 ans. À ça, on peut ajouter tous les bois que nous avons sur Fontainebleau. Donc ça, c'est une étude qui est plus ancienne. C'est la thèse de Nathalie Etienne, qui a été soutenue en 2008, puis des travaux postérieurs qui ont été réalisés. Et à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau, on a analysé différents endroits qui sont l'équivalent de différents sites, parce que l'origine des bois, elle n'est pas tout à fait la même. Et puis les âges, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et donc finalement, voici le corpus important que nous avons pour réaliser la chronologie de Fontainebleau. Ça, c'est pour tous les arbres du monument. Et puis, on y a ajouté les arbres vivants de la forêt, avec une période de recouvrement entre les arbres de la partie la plus récente du château, qui est le théâtre, et la forêt de Fontainebleau. Et voici une représentation du nombre d'individus total que nous avons. Alors c'est très hétérogène, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. On préférerait avoir à peu près tout le temps le même nombre d'arbres. Et puis on a un certain nombre de soucis avec ça. On a des périodes où on a moins de 5 individus, moins de 5 arbres, donc on n'est pas trop sûr de la représentativité de ce signal. Et on a même une période, ici, à la fin du XIIIe siècle, où on n'a pas d'arbres du tout. Donc on va remédier à ça, dans le cadre notamment de la thèse de Charlie Hureau, qui va étudier cette période de temps, entre autres choses. Pour la période récente, par contre, on a une très bonne représentation, puisqu'on a jusqu'à 30 arbres. Donc, il manque une diapo. Donc, on a pu établir une relation entre la composition isotopique des bois récents et des paramètres climatiques. Ah non, excusez-moi, je sais où elle est. Voilà, pardon, c'est ça. Donc voilà, on a donc recherché quelles étaient les meilleures relations entre le delta 18O de la cellulose de nos chaînes vivants de la forêt de Fontainebleau, avec différents paramètres météorologiques, le déficit d'humidité, des températures. Et celui qui obtient le meilleur score, qui a un R carré de 0,58, c'est le SPUI. Le SPUI, c'est un indice d'humidité, certains l'appellent indice de sécheresse, mais ça revient au même. C'est la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration. C'est normalisé. Et ça nous indique donc, c'est un paramètre qui est très, qui a beaucoup de sens quand on travaille sur de la végétation, puisque la végétation elle est sensible à l'état d'humidité. Et d'ailleurs, ce que l'on observe, c'est qu'on a une corrélation, là, je vous disais 0,58, entre le SPUI et le delta 18O. Alors on n'est pas trop surpris non plus, puisque je vous ai dit le delta 18O, il dépend de la température et de l'humidité, et le SPI, il dépend de la température et de l'humidité. Donc c'est bien qu'on ait cette corrélation. Alors 0,58, quand je présente ça à des physiciens, ils sont toujours un peu... ouais, c'est pas très bon, 0,58, mais en fait, dans le milieu naturel, c'est excellent. Et donc voici l'équation qu'on a obtenue, et donc ce que je vous disais tout à l'heure, on détermine le modèle de régression, et après on l'applique aux données anciennes. Alors le SPUI, il varie dans une gamme, il n'y a pas normalement de limite, mais quand il est positif et plus on va vers les valeurs hautes, plus on est dans l'humidité, et inversement quand il est négatif. Là, on voit que quand il est positif, on a des delta 18O qui sont bas et élevés dans le cas contraire, et ça a du sens, puisque quand on est dans une période humide, il y a peu de fractionnement isotopique, il y a peu d'enrichissement, alors que dans les périodes sèches, on a au contraire un fractionnement qui est fort. Donc ça se tient, tout ça. Et voici ce que l'on... Si l'on applique le modèle de régression sur les données... donc sur les delta 18O que l'on a mesurés sur nos arbres, voici ce que l'on obtient. Alors la courbe en brun la plus fine, c'est les variations interannuelles, donc d'une année sur l'autre que l'on a mesurées. L'ombre en jaune derrière, c'est l'intervalle de prédiction, c'est-à-dire l'incertitude qu'on a sur notre constitution. Et enfin, la courbe plus épaisse, c'est une moyenne glissante sur 29 ans. Alors, ce que l'on constate, c'est que si je prends les extrêmes, l'extrême positif et l'extrême négatif, alors là, j'ai oublié, j'ai mis le SPUI en ordre inverse, le moins vers le haut, de façon à ce qu'on ait la sécheresse en haut et l'humidité en bas, c'est un peu plus instinctif. Donc ici, on a des années qui sont sèches, celle-ci est très sèche, et l'année la plus humide, elle est ici. Donc en fait, le climat dans le bassin parisien, à cette échelle de temps, il est essentiellement dans la gamme normale, mais il va dans les extrêmes jusqu'à presque très sec à extrêmement humide. Le climat moyen, il est donc dans la normale, mais plutôt vers l'humide, comme vous avez peut-être constaté ces derniers jours. À l'époque du petit âge glaciaire, on a effectivement cette cuvette qui, avec des périodes d'embellie ou des périodes moins humides, et en moyenne, l'humidité à l'époque du petit âge glaciaire, elle est un peu plus importante que l'humidité moyenne sur toute la période. Mais ceci cache un peu, j'allais dire c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un comble, mais ça cache le fait qu'il y avait eu des périodes, des années très très humides pendant le petit âge glaciaire. On atteint des sommets, si on tient compte de la barre d'erreur, dans les années, dans la fin du 15e siècle notamment. Voyons maintenant... La période de l'optimum climatique médiéval, qu'on appelle aussi anomalie climatique médiévale, qui est souvent décrite et représentée comme une période plutôt chaude, plutôt sèche. Alors nous, ce que l'on constate, c'est que c'est en fait une période très contrastée. On a un début de XIIe siècle qui est très humide, aussi humide que le petit âge glaciaire, et effectivement une embellie sur la fin du XIIIe siècle. Mais cette embellie, puisque les climato-sceptiques utilisent l'optimum climatique médiéval pour dire que finalement, il y a eu des périodes chaudes et sèches dans le passé, et que ça n'a donc rien à voir avec les gaz à effet de serre et les perturbations qu'ils engendrent. Et donc, nous, ce que l'on voit, c'est que même au plus fort de l'optimum climatique médiéval, bien qu'il nous en manque un petit bout, là, mais au plus fort de cette période-là, on est en dessous de ce qu'on avait dans les années 2000. Et si je reporte les valeurs actuelles, elles sont ici. Donc on est bien en dessous de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a maintenant, en termes d'humidité. Alors, ce que l'on a vu, c'est que finalement, la composition isotopique de l'oxygène, et puis on obtiendrait d'autres informations en travaillant sur le carbone, mais c'est donc une donnée qui est intéressante, qui est relativement précise, qui peut être robuste si on a suffisamment d'arbres, qui n'a pas les biais de la dendrochronologie conventionnelle, mais qui a bien d'autres inconvénients, notamment le fait que ça demande un travail gigantesque, ce sont des heures et des heures de travail, et ça demande aussi beaucoup plus d'argent que la dendrochronologie conventionnelle. Donc ça n'a pas du tout vocation à la remplacer, mais plutôt à venir en complément. Ces deux approches sont tout à fait complémentaires. Et puis pour finir, je voulais comparer, c'est une perspective en fait, comparer les résultats que nous avons obtenus, donc c'est ma courbe marron, avec un recensement des occurrences de famine qui a été publié en 2023 par Lundquist. C'est assez étonnant de voir que la plupart des années, des périodes de famine correspondent effectivement à des années que nous reconstituons comme des années humides. Mais cette correspondance, en fait, elle tend à disparaître sur la fin de la période commune de leur enregistrement et du nôtre. Et ça, je trouve que ça interpelle. C'est clair que les famines, ça n'a pas que des raisons climatiques, il y a des raisons politiques, les guerres, etc. Mais justement, je pense que c'est une voie d'étude à développer, et je fais un clin d'œil à Emmanuel Garnier pour ça, à l'avenir, pour justement faire la part et voir dans quel cas les détériorations du climat entraînent des famines, dans quel cas elles n'en entraînent pas. Je pense que ça peut nous en apprendre aussi beaucoup sur les sociétés humaines. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.